O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá à tous, il est 14h02 et vous êtes sur Radio Alpha pour Thémestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Votre trio de choc préféré est de retour avec Ricardo et Antonin. Et d'ailleurs, Ricardo, un très joyeux anniversaire à toi.
Joyeux anniversaire en effet.
Merci beaucoup, salut tout le monde.
On est aussi avec Anne-Harit, notre experte qui présentera sa rubrique musicale en deuxième heure. Comment ça va Anne-Harit ?
Ça va bien et vous ? Et encore joyeux anniversaire Ricardo.
Merci beaucoup.
Et aujourd'hui on est nombreux puisque Laura est là aussi. Ouais. Comment ça va Laura ?
Ça va super et joyeux anniversaire aussi Ricardo du coup.
Et Loïc du compte Portugais de France est aussi présent avec nous. Il nous a fait l'honneur d'être parmi nous.
Bonjour à tous et bon anniversaire Ricardo aussi.
Et aujourd'hui au programme culture, sport, musique et littérature, et BD surtout puisque nous recevons l'auteur et dessinateur Nicolas Barral qui a publié en septembre dernier chez Dargaud la BD L'intranquille Monsieur Pessoa. Comment ça va Nicolas ?
Ça va très bien, parabéns.
On est très content de te recevoir en tout cas et on a vraiment hâte que tu puisses nous en dire plus sur ce fantastique album et aussi sur ton premier Sur un air de fado qui est sorti en 2021. Donc restez avec nous pour en savoir plus, ce sera au moment de l'interview à partir de 14h45. En attendant, je vous laisse avec une nouveauté de Nounik, c'est un rappeur qui est déjà passé par Thémestade de Schponton. Ça s'appelle Pouti et c'est sorti hier.
Non passa nada, eu tentei várias vezes. Foram dias sem te ver à minha frente. Eu queria algo diferente, fora deste mundo de doentes. Ela mentia, pensava sempre em confiar, não conseguia. Eu queria só o melhor mundo para os dois, nada te podia faltar. Em vez disso deitas tudo a perder, parece bipolar. Mas não há ninguém como tu, não há. E há, não há dilema, essa moça dá-me só nela e vais. No fundo já não te quero, mas não. Dilema. Mas eu já não tô nessa, pra mim eu conto só dinheiro. Já não sou o primeiro, eu já não tô mais nessa. E agora vens tu. Eu fui por ti. Rasgaste o nosso love assim como o papel. Não percebi que fiz de errado para não seres fiel. Eu não fui culpado, eu fui por ti. Eu não fui culpado, eu fui por ti. Eu não fui culpado, eu fui por ti. Que fiz de errado para não seres fiel. Fui por ti, feito tudo. Para ti sempre fui um vagabundo. Tinha cor na vida, agora tudo escuro. Mas por ti eu não vou chorar. Vou encontrar um lugar como a star, eu vou brilhar. Oh bebê, fala que tens saudade de mim, mas eu não entendo. Não entendo, agora que eu já sirvo para ti. Sei bem contar as vezes que te portaste de tal maneira, não me soubeste respeitar. Oh no, alive. Um virou cem, agora perguntas why. Peço ao DJ, mete o beat e não há nada que faça mudar esta situação. Qualquer um te perdoa, mas olha bebê, tu sabes que eu não. Eu fui por ti. Rasgaste o nosso love assim como o papel. Não percebi que fiz de errado para não seres fiel. Eu não fui culpado, eu fui por ti. Eu não fui culpado, eu fui por ti. Eu não fui culpado, eu fui por ti. Que fiz de errado para não seres fiel.
C'est le moment de l'événement de la semaine et cette semaine nous avons deux événements à vous présenter, deux concerts. Qu'est-ce qui s'est passé hier Laura ? D'ailleurs Loïc, tu vas pouvoir nous en parler aussi.
Et oui, le premier événement de la semaine donc c'était hier à l'Accor Arena et c'était le concert des Kalema. Donc on y était avec Julie et avec Loïc du coup et c'était vraiment un super concert, je sais pas ce que vous en avez pensé.
C'était incroyable.
Ouais, franchement, il y avait une ambiance de dingue.
Et toi, t'étais juste devant, en plus, t'étais en fosse vraiment tout
c'est
devant.
C'est ça, j'étais juste devant la scène, il y avait une ambiance, c'était incroyable.
C'était marqué sold out partout, vraiment oui. Incroyable. C'est les deuxièmes chanteurs lusophones qui remplissent en Accor Arena. Le premier, c'était Roberto Carlos, le grand chanteur brésilien qu'on avait vu avec Antonin il y a quelques mois. Et il y avait plein d'invités. Il y a oui. plein d'artistes invités.
Bah, on pensait qu'il y aurait d'autres surprises, mais c'était quand même assez suffisant. J'ai bien aimé Black M, bizarrement.
Black M.
Ouais, c'était. Ouais.
On s'y attendait pas. On se demandait ce qu'il allait faire. Il est venu chanter Sur ma route.
Oui, parce qu'en fait, ils l'ont repris cette chanson dans un épisode de Taratata. J'ai vu ça, du coup, parce que j'ai cherché quel était leur duo. Et ouais. en fait, il n'y en avait pas, mais c'était vraiment la reprise de Sur ma route qui, apparemment, a eu beaucoup de succès. Donc,
ça nous a
vraiment
fait très
l'ambiance.
Plaisir, ouais. Oui. Et sinon, il y avait Dino de Santiago, Nun Ribeiro et Marise pour Marie et Joanne. C'était vraiment super. Ils ont chanté leur classique. Ils ont chanté Tiamo en français et en portugais. Donc, on était très contents d'avoir la version portugaise. Et donc, le deuxième événement, Laura, qu'est-ce que c'est?
Alors, le deuxième événement, c'est le concert de Fiona French Fadist le 16 janvier au Kibélé. Donc, Fiona, qui habite à Lisbonne, elle revient à Paris pour un concert intimiste. Je crois que des membres de Tempstad y seront d'ailleurs.
Sophie y sera, ouais, on l'embrasse très fort.
Sophie y sera, et puis nous vous invitons à prendre vos places également. Vous pourrez d'ailleurs trouver l'interview que Julie a fait de Fiona sur le site de Cap Magellan avec toutes les informations pour prendre vos places.
C'est ça, et sinon contactez directement Fiona French Fadista sur Instagram si vous avez des questions, et le lien pour prendre vos places est dans sa bio. Nicolas, je te conseille vraiment d'y aller, très très sympa. Tu aimes le fado, toi, du coup?
Oui, j'aime le fado.
C'est un peu le titre de ta première BD, sur un air de fado.
Oui, fallait bien trouver un titre. Mais j'aime bien la guitare portugaise. Moi.
Ouais. Est-ce que ça te fait des frissons ou pas?
Oui.
Ah bah, tu es donc portugais, je te l'annonce.
Et j'ai même eu des frissons sur l'hymne portugais, c'est pour vous dire.
Waouh. Eh bien, écoute, on t'accepte...
Je suis totalement contaminé.
Mais on t'accepte avec grand plaisir parmi la communauté, et merci à ta femme de t'avoir transmis ça.
Elle est douée.
Elle est très douée. Merci en tout cas, Laura, pour cette présentation, et donc ce jeudi, un concert à ne pas manquer. D'ici 5 minutes dans Ushka Dance Day, Julie, je vous présente une nouvelle bande dessinée, mais avant cela, je vous propose d'écouter une nouveauté de la chanteuse Louyana, ça s'appelle Ich te lehre, et c'est tout de suite.
Yo quiero tocar piña estrella. Yo quiero tocar piña estrella. Deixa-me sonhar nos teus olhos com seu acreditar. Nós os dois serão mais do que uma. Por seguimos a luz, o caminho de Jesus. Eu quero tocar minha estrela, deixa-me sonhar nos teus olhos com seu acreditar. Nós os dois serão mais do que uma lua. Eu prometo só de te amar. Tanto tempo à espera da minha joia. Esse dia renasci com essa estrela. Ele é o meu amor. Este amor imenso. Azuris, meu sonho louca. Nossa prenda de felicidade a quem odeia a vida.
Está a ouvir o Tempo Estado 2.1 na Rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. Chegou o tempo para os cadernos de Julie. Nicolas, c'est ma rubrique en portugais. Ça va, tu comprends quand même?
Je vais m'accrocher.
Sinon, c'est pas très très grave. Mais du coup, je vais présenter une autre bande dessinée aujourd'hui, celle de Adeline Casier qui s'appelle Insilence. Du coup, hoje vamos falar de banda desenhada com Nicolas. Então, decidi apresentar esta nova banda desenhada que saiu no dia 12 de janeiro na editora La Boîte à Bulles. Chama-se então Insilence e é de Adeline Casier. Então, para aqueles que falam português, na vossa opinião, porquê Em Silêncio?
Em Silêncio para uma BD, tipo, não há falas dentro dos desenhos, talvez?
Não é isso, mas não, podia ser.
Talvez no contexto que não se podia falar?
Exatamente, já vou explicar, mas primeiro, pequeno aponte sobre a autora. Adeline Casier estudou nas Belas Artes de Tournai, na Bélgica, na secção banda desenhada. Acabou o curso em 2020 e neste ano de confinamento cofundou o atelier galeria Le Tréteau, onde encontramos várias disciplinas ao redor da imagem imprimada, como então a banda desenhada, a ilustração, a gravura ou a microedição. Começou a trabalhar sobre a sua banda desenhada Em Silêncio em 2022, ou seja, já faz quase 3 anos. É enorme. E além disso, também organiza ateliês acerca da criação e da narração pela imagem. Só projetos incríveis. Parabéns mesmo, Adeline. E agora, qual é a história da obra? Já querem saber? É simplesmente o salto do avô da Adeline. Bom, explicar a história assim é simples, mas a história em si não o é, já perceberam. João vive no norte de Portugal em 1962, é casado e pai de 2 filhas. O irmão dele é preso pela PIDE e o pai de família acaba por perder o seu emprego. De vergonha, não consegue falar disso à sua família, mas precisa de uma solução, como é óbvio. Uma amiga acaba por falar com João da França, diz-se que se pode encontrar trabalho e uma casa para uma família, ser feliz. Seguimos depois então o percurso de João durante o salto, com o perigo que representa, nomeadamente na Espanha, por causa da Guarda Civil local. Ao atravessar o país é preciso silêncio, já perceberam? Tem que atravessar a Espanha em silêncio. E agora já está tudo percebido no título. E vários portugueses morrem ao tentar o salto por causa da Guarda Civil. Digo-lhe já, eu chorei quase, estava quase a chorar. Esta banda desenhada é um primeiro álbum comovente, uma pequena joia gráfica, como foi chamado pela editora. Aliás, a apresentação da editora diz que Adeline conta a lápis de grafite a história do seu avô, que testemunhou a grande vaga da imigração portuguesa do pós-guerra. Esta homenagem bem documentada está empregada de poesia onírica e melancolia. Estou completamente de acordo. E não sei se percebeu, mas com a técnica do lápis de grafite, é uma banda desenhada a preto e branco. Acrescenta muita emoção transmitida na história, ao facto de também parecer ser uma história longínqua, mesmo se não o é, e é também, se calhar, reflete também a pobreza e a situação dramática na qual se encontram as personagens. Eu pedi a Adeline porque é que decidiu escrever Em Silêncio.
Si j'ai voulu raconter l'histoire de mon grand-père à travers cet album qui s'intitule M. Silencio, c'est avant tout pour rendre hommage à son histoire personnelle, mais aussi à celle de beaucoup d'autres Portugais qui ont eu un vécu similaire au sien. J'avais aussi une volonté d'être universelle sur ce qu'est en fait la traversée clandestine, comment est-ce qu'on fait le choix de partir de son pays, comment se passe la traversée, souvent dans des conditions difficiles, et comment on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît bien souvent pas la langue. Et je trouve que c'est une thématique qui est toujours d'actualité, qui est très contemporaine.
Obrigada, Adeline, e parabéns pelo teu trabalho que, mais uma vez, adorei. E hoje, João, o avô da Adeline, ainda está vivo e mora no norte da França. Infelizmente, a sua avó, que ajudou a encontrar o título da obra, faleceu há pouco tempo. Para acabar, a obra conta com algumas páginas históricas escritas pelo nosso caro historiador Victor Pereira. Grandes beijinhos, está a ouvir. Está sempre a algum lado quando falamos da história contemporânea de Portugal, não é? E ele conta mesmo o que se passou de maneira mais histórica para perceber melhor a banda desenhada e a história de Portugal. Resumimos então em silêncio de Adeline Casier na editora La Boîte à Bulles, disponível em todo lado. E aliás, vamos oferecer exemplares da banda desenhada com a editora. O sorteio estará disponível desde esta segunda-feira nas nossas redes sociais. Igualmente, Adeline Casier estará em dedicace no dia 22 de janeiro, das 4h30 às 7, peço desculpa.
Às 7.
Na rubrique à Bulles, no 11e arrondissement de Paris. Não hesite em segui-la nas suas redes sociais para ter todas as informações e em ir falar com ela no dia 22 em Paris. Lá estarei. Continuamos logo depois com o Ricardo em Golo, mas primeiro deixo-os com uma novidade do grande nininho Vaz Maia, chama-se Despertar.
Pensando que voltarás, eu imagino que estejas com alguém que ainda pensas em mim, que ainda choras por mim, porque ensinaste a amar. Fazem falta os teus beijos. É uma oração. Só sabe quem passou por isso. Quem passou por isso. Me falta algo. Sou um bêbado apaixonado. Ter que beber desse copo amargo. Não desisto da ideia de voltares. Estou condenado. Ando à procura do teu amor, meu coração não me deixa parar de esperar. Eu imagino que estejas com alguém que ainda pensas em mim, que ainda choras por mim, porque ensinaste a amar.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, d'ici 15 minutes, ce sera le moment de l'interview avec Nicolas Barral. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur le WhatsApp au 06 62 10 98 60, je répète 06 62 10 98 60. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Golo avec Ricardo, avec le birthday boy du jour. Quelles sont les infos sportives qu'il ne fallait pas manquer cette semaine donc?
Alors on commence par un scandale paralympique puisque l'athlète Simone Fragos a été suspendue par le Comité Paralympique International en raison de dopage. Suite à un test positif réalisé avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Portugaise est exclue de toute compétition pendant une période de 3 ans allant du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2027. Défaite du Portugal en handball face à la France, score final 44-38, mais rassurez-vous, c'est un match dans le cadre d'une préparation et il était quand même très serré, ça montre les progrès de l'équipe portugaise en handball. Bonne nouvelle en tennis puisque le portugais Jaime Faria se qualifie pour l'Open d'Australie. Il rejoint son compatriote Noon Borges dans le tableau principal du Grand Chelem. Victoire pour le jeune pongiste Thiago Abiodun. Le portugais est champion WTT du Youth Contender Lins dans la catégorie des moins de 17 ans.
Merci Ricardo. Et pour cette journée d'anniversaire, tu nous présentes un joueur qui te tient particulièrement à cœur, n'est-ce pas?
Eh oui, parce qu'aujourd'hui, je me suis fait un peu plaisir. Je vais vous parler de mon joueur de foot préféré. Je me suis dit que c'était le meilleur jour d'ailleurs pour en parler. Alors je vous pose la question, qui pourrait être mon joueur préféré? Indice, il a joué sur le sol français.
Moi je sais, tu l'as déjà répété plein de fois.
Pareil. Vous n'avez pas une idée?
Quaresma.
À votre avis?
Florian Thauvin. Non, raté.
Je ne suis pas marseillais, bien évidemment.
Comment ça bon, pas moi.
Mais oui, jamais. Évidemment, mon joueur préféré est Ricard Quaresma. C'est évident, pourtant, en tant que fan de Porto et né au début des années 2000, Quaresma a bercé mon époque et surtout, il a bercé une génération entière. Alors, commençons par la base, les présentations. Ricard Quaresma est né le 26 septembre 1983 à Lisbonne et contrairement à certaines idées, il n'a pas toujours été fan du FC Porto. Tout le contraire même, puisque c'est un pur produit du centre de formation du Sporting, en même temps qu'un certain Cristiano Ronaldo. Ouais. Deux prodiges en même temps, c'est simple, le Portugais se posait une question. Qui aura la meilleure carrière ? Ronaldo, Quaresma ou les deux ? Ce débat ne durera en réalité que quelques années. Mais revenons à celui qu'on se nomme le Mustang Portugais. À seulement 17 ans, sa carrière s'emballe. En jouant pour l'équipe B du Sporting et en remportant le championnat d'Europe des moins de 17 ans, l'adolescent se fait un nom. Il joue son premier match en pro face à un certain FC Porto. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. D'autant que le Sporting avait remporté le doublé Coupe Championnat. Le Portugais est courtisé par de nombreux clubs et atterrit au FC Barcelone. Malheureusement, son aventure ne se déroule pas bien et après 28 matchs et un seul but, il quitte le club catalan. Et Cigano, c'est aussi un de ses surnoms, a déclaré ne plus vouloir rejouer tant que Frank Rijkaard sera à la tête de l'équipe. Alors pour info, Frank Rijkaard a remporté la Ligue des Champions en 2006 avec le Barça. Un premier échec au plus haut niveau, mais Quaresma ne se laisse pas abattre et rejoint le prestigieux club du FC Porto. Et là, la magie opère. De 2004 à 2008, la légende Quaresma débute. Alors, même si ses statistiques sont correctes au premier abord, 31 buts en 158 matchs, le Portugais sublime, crochet, extérieur du pied, dribble, c'est simple, une génération de pro Quaresma émerge.
Dont toi donc.
Oui, on a tous voulu avoir sa coupe aussi.
Non, pas moi non, étrangement.
Antonin peut-être.
Ah, plus maintenant. Voilà.
En 2008, un nouveau grand d'Europe le recrute, l'Inter Milan. Mais malheureusement, rebelote, il ne performe pas. L'entraîneur de l'époque, un certain José Mourinho, le prête même à Chelsea en 2009. Et pareil, ça ne marche pas.
Mais comment on t'explique ça alors ?
En fait, on peut l'expliquer par de multiples raisons. Il aimait faire la fête. Mais quand je vous dis aimer la fête, le mot est faible. Tandis que Ronaldo prône une bonne hygiène de vie, hein, on connaît tous la hygiène de vie de Cristiano Ronaldo, Quaresma sort souvent en boîte de nuit, boit d'alcool. Enfin bref, il gâche une bonne partie de sa carrière. Après Chelsea, le Portugais s'expatrie en Turquie et au Moyen-Orient. Mais il signe un retour triomphant à Porto, lors de la saison 2014-2015, où, en 67 matchs, il inscrit 19 buts. Quaresma a triomphé. Sa fin de carrière se résume à la Turquie et à un nouveau retour au Portugal, au Vitória Guimarães. Alors, à votre avis, je vais vous poser une petite question. Là, on a parlé de la situation en club, mais en sélection, comment ça se passait ?
J'imagine pas très bien, du coup.
Vous n'avez pas d'autre idée ?
J'imagine que sa réputation de fêtard... Et de moins sérieux sur l'hygiène et sur le suivait.
Le suivait. Ouais, peut-être qu'il importe aussi les petits jeunes de la C avec lui, du club.
Alors,
Ricardo.
Par exemple. Alors, on se souvient tous de son Euro 2016 avec sa coupe spéciale. Ou de sa Coupe du Monde 2018 avec un but de l'extérieur du pied, sa spéciale. Mais même avec la CS1, Quaresma a eu des déconvenues. Dans les années 2000, Luis Felipe Scolari était le sélectionneur du Portugal. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il a remporté la Coupe du Monde avec le Brésil en 2002. Donc un entraîneur prestigieux. Et bien même à cette époque, le sélectionneur n'appelle pas Quaresma, pour les raisons que j'évoquais avant. Le Portugais a dû batailler au fil des années et sous plusieurs sélectionneurs. Mais bon, que voulez-vous ? Sa carrière a été auto-sabotée, mais cela reste une grande légende du Portugal. Quaresma a inspiré une nouvelle génération tout entière, et beaucoup de portistes comme moi ont voulu lui ressembler sur le terrain. Bon, faute de quoi ?
Sur le terrain, donc toi tu jouais au foot avant ?
Oui, mais je me suis fait les croisés.
Ah,
le classique.
Évidemment, évidemment.
Sinon j'aurais signé au Real Madrid.
Ah, non, à Porto.
Ah bah oui, non, on aurait commencé à Porto et ensuite Real Madrid.
Mais
et
c'est vrai que, comme quoi, on le répète souvent quand on parle de sportifs avec toi, Ricardo, mais pour moi c'est vraiment l'entourage qui fait tout. Parce que je pense que si t'es bien entouré, tu prends pas la grosse tête en fait.
Je pense que c'est surtout lui en vrai, c'était même pas l'entourage. Parce que quand on a Ronaldo en meilleur ami, croyez-moi que lui il va vous dire couche-toi bien, mange bien, etc. C'est juste lui, c'est sa nature.
Bon bah écoute, est-ce que Nicolas, toi tu suis un peu le sport ou le foot? Puisque tu sais qu'au Portugal le foot c'est un peu une religion.
Ah bon? Oui, je suis le PSG moi.
Ah.
Et il y a pas mal de Portugais au PSG.
C'est vrai, On en a pas mal
c'est
en
vrai.
Ce moment.
Bah, Jean Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes. Ouais. Voilà. D'ailleurs, t'en penses quoi de la saison du PSG actuellement?
Écoute, je trouve que ça rame un peu. Cette idée de jouer sans avant-centre me troubler un peu. Mais Ramos, il est un peu sous-utilisé, enfin, je trouve.
Je suis d'accord.
T'es confiant pour. Est-ce que tu es confiant du coup pour la phase finale de groupe?
Confiant pour le championnat, mais pour la phase de groupe, je suis un peu plus circonspect. On va voir.
Et du coup, pas du tout le football portugais.
Ah bah, quand il y a France-Portugal.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
À la maison.
C'est compliqué, mais je ne peux pas me réjouir. Quand la France gagne, la plupart du temps, je ne peux pas me réjouir.
Ah.
Sinon, tu
j'ai la victoire modeste.
Sinon, tu dors sur le paillasson?
Non, mais. Non, j'ai vu mon fils pleurer en 2006. Quand le Portugal est éliminé, Benatti Zidane sur une faute un peu
très débile,
discutable. Enfin voilà. Ouais. Donc je ne peux pas me réjouir.
Mais on comprend.
Voilà.
On comprend.
Mais voilà. Mais non, mais je suis le foot. Ouais, ouais.
Et t'as pas un club portugais?
C'est bien parce que quand on regarde le foot, enfin moi je regarde le foot. J'ai 12 ans. C'est agréable.
Ouais, c'est clair.
De toute façon, quand on regarde du sport, on ne vieillit pas.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est une petite madeleine pour moi, le football.
Et tu fais d'autres sports, par exemple?
Est-ce que je fais du sport?
Non, est-ce que tu regardes d'autres sports?
Est-ce que je regardais pas mal le tennis à une époque, puis maintenant ça m'ennuie un peu, le tennis.
Nadal, Federer ou Djokovic? Ou d'autres, peut-être?
Peut-être quand même Federer. Mais voilà.
Et pas de club portugais de cœur?
Yannick Noah.
Oui, évidemment.
Seul victorieux de Roland-Garros.
Pas de club portugais de cœur, alors. Que le PSG.
Ah non, là, j'ai. Enfin, oui, c'est PSG. Quand j'étais môme, moi, c'était Saint-Etienne.
Ouais.
L'épopée stéphanoise.
Mmh. Dans les années 70.
Ivan Turković dans les buts.
Ouais.
Mon idole. Et puis voilà, mais. Il y a eu Lyon, quand même. Lyon a une belle période. Voilà, les feuilles mortes de Juninho.
Et pour les clubs portugais, je crois qu'ici, on est plus des benfiquistes quand même, là.
Oui, totalement.
Totalement.
Ouais.
La majorité l'emporte ici.
Anahita Benfica, Laura Benfica, Loïc Benfica, et bien Antonin et Ricardo.
On est les seuls
de Porto. C'est dommage.
On ne peut pas être parfait.
C'est bien dommage. En tout cas, merci Ricardo pour cette belle présentation. Merci d'être venu sur ce grand joueur portugais qu'est Quaresma. Moi, je vous propose tout de suite d'écouter encore une nouveauté musicale. C'est sorti hier. C'est une nouveauté francophone cette fois. Ça s'appelle Fille Lacrymale. C'est de Stilto. Je pense que vous la connaissez, la fameuse influenceuse qui maintenant est chanteuse. Et puis d'ici 5 minutes, donc, on sera en fin d'interview avec toi, Nicolas Barral.
Anniversaire, je pleure. À la fin du film, je pleure. Quand ils se marient, je chiale. Comme un enfant, mes larmes font des torrents de sel. Quand ils me quittent, je pleure. Quand c'est moi qu'ils quittent, je pleure aussi. Je sais pas si c'est normal et s'il y a des docteurs qui savent soigner les cœurs humides. Je suis une fille lacrymale, mais qu'est-ce que j'y peux? Paraît que c'est pas normal qu'un jour il y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Je suis une fille lacrymale, et même les jours heureux, je chiale quand ça va mal, et puis quand ça va mieux. Je pleure aux enterrements de gens que je connais même pas. J'imagine leur vie d'avant, et ça coule, ça coule, ça coule comme Niagara. Les yeux noyés dans le déluge, pas d'essuie-glace, pas de refuge. Ça tombe pour un mot, une mélodie, pour un air qui me rappelle à lui. Je suis une fille lacrymale, mais qu'est-ce que j'y peux? Paraît que c'est pas normal qu'un jour y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Je suis une fille lacrymale, et même les jours heureux, je chiale quand ça va mal, et puis quand ça va mieux.
jour il y aura plus une larme dans le fond de mes yeux. Je suis une fille lacrymale et même les jours heureux, je chiale quand ça va mal et puis quand ça va mieux.
Radio Alpha. Themestadt de Sponton sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour l'interview avec Nicolas Barral. Nicolas, tu es dessinateur de bande dessinée, désormais scénariste. Tes deux derniers ouvrages en solo ont été publiés chez Dargo et sont en lien avec le Portugal, donc Sur un air de fado en 2021 et L'intranquille Monsieur Pessoa en septembre dernier. Nous nous sommes vus, toi et moi, en novembre pour réaliser une interview qui est disponible sur le site de Cap Magellan ainsi que sur le podcast Plus 351, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et Antonin est un grand fan de BD, il adore aussi Pessoa, il a été son sosie au lycée.
Plus maintenant malheureusement. Ah là là. Non mais j'ai pas mis les lunettes aujourd'hui, donc je n'ai pas les petites lunettes rondes qui vont avec. Mais
et bien sûr, il a lu tes deux albums et il les a beaucoup aimés, et donc c'est lui qui va mener cette interview aujourd'hui.
En effet, parlons tout d'abord un peu pour introduire au lecteur ton dernier ouvrage, L'intranquille Monsieur Pessoa, sorti tout récemment en fait, en septembre 2024, c'est bien ça? Avec un personnage, des lieux et un contexte réel, mais avec une histoire qui est, elle, troublante et énigmatique, qui vire même au surnaturel un peu. On suit Simão Cerdeira, qui écrit la future nécrologie du poète Fernando Pessoa. Pourquoi avoir choisi un peu cette vision externe sur le personnage pour raconter Pessoa?
Alors en fait, j'ai croisé Pessoa la première fois dans un livre d'Antonio Tabucchi qui s'appelle Une malle pleine de gens. Ce récit, enfin cet essai qui présentait le poète et puis ses hétéronymes, enfin ça m'avait beaucoup intéressé et j'ai commencé à me renseigner, enfin en me disant qu'un jour je ferais peut-être un livre. Et alors pourquoi le journaliste? Parce qu'en fait je me voyais avancer en fait dans mon enquête et je me suis dit que finalement si je choisissais un journaliste, j'aurais en quelque sorte un double, et donc voilà, donc ce journaliste effectivement est chargé de rédiger la nécrologie de Pessoa. Pessoa n'est pas encore mort, mais les journalistes se préparent à toute éventualité, et donc il va un peu comme je l'ai fait moi, mener l'enquête sur Pessoa, rencontrer un certain nombre de gens qui l'ont côtoyé, pour essayer de tracer un portrait le plus fidèle possible.
Et justement, ce travail d'enquête que tu as réalisé, il a pris combien de temps? C'est par quel genre de moyens? C'était plutôt de la recherche biographique, historique, sur la dictature aussi, pas seulement sur Pessoa?
Alors le travail de recherche s'est étalé sur plusieurs années. C'était pas du plein temps, hein. J'avais d'autres albums à faire et puis à mes moments perdus, par exemple quand j'allais dans des librairies à Lisbonne, je regardais tout ce que je pouvais trouver sur Pessoa et je suis tombé sur un livre qui s'appelait Pessoa, images d'une vie, qui était un livre de photographie et aussi qui contenait des correspondances de Pessoa qu'il avait entretenu avec sa mère. Avec Ophélia, la seule amoureuse qu'on lui ait connue. Et en fait, là, ça a été vraiment le déclic. C'est-à-dire que sur la couverture, il y avait la photo de Pessoa. Et dans les yeux de Pessoa, j'ai vu une mélancolie qui m'a semblé familière. C'est-à-dire que il y a eu un échange de regards assez troublant entre Pessoa et moi. Et en fait, voilà, j'ai fini par m'apercevoir que Pessoa allait me fournir l'occasion de réfléchir à la question de savoir pourquoi on écrit. Qui sont ces gens qui écrivent? Et quel est ce fil qui relie les gens qui écrivent à ceux qui lisent? Et voilà. Et donc, tout en parlant de Pessoa, c'est un peu de moi que j'ai parlé. L'intranquillité que l'on voit dans le regard de Pessoa m'est familière parce qu'elle me renvoie à cet état un peu particulier dans lequel se trouve le créateur qui évidemment est dans la vie mais pas tout à fait. Il est un peu à cheval entre la vie et la fiction et moi j'ai une famille et c'est vrai que je suis pas forcément toujours le papa le plus disponible qui soit, parce que présent à la maison mais un peu perdu dans ses pensées. Et donc, j'ai peut-être un peu fait ce livre aussi pour que les gens de ma famille le lisent et comprennent un peu mieux qui je suis.
Et justement, entre ce personnage de Pessoa qui est à la fois toi et pas tant que ça, et le personnage de Simão Cerdeira, quelle est au final, avec tes recherches, la limite entre fiction et œuvre biographique? Comment est-ce que tu as décidé de réadapter son histoire d'une certaine manière? Comment est-ce que tu as choisi le scénario?
Alors en fait, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à... Enfin, aidé d'ailleurs par un certain nombre d'écrits qu'on trouve hein, sur Pessoa, produits par un certain nombre d'exégètes, dont Tabouki que j'ai cité. Mais il y avait quand même des trous à combler. L'enfance de Pessoa, par exemple, je savais parce que c'est connu qu'il a perdu son père, que sa mère s'est remariée, qu'elle l'a emmené. Qu'il a dû quitter Lisbonne avec sa maman, qui a épousé en seconde noces le consul du Portugal à Durban, en Afrique du Sud. Et donc, je savais qu'ils avaient pris un bateau pour rejoindre cet homme. Mais que s'est-il passé sur le bateau? Là, il n'y avait personne pour le dire. Donc, il fallait faire un effort d'imagination. Et donc, c'est ce qui était passionnant, c'est-à-dire qu'il a fallu que je m'imprègne de la vie de Pessoa, de manière à ce que les éléments qui me manquaient, je m'adapte finalement à j'entre complètement dans la peau du personnage.
Un peu comme au théâtre où on devient
voilà, pour,
ou un acteur.
Pour produire des éléments crédibles.
Et on le sent.
Voilà. Mais c'était passionnant à faire. Et puis, il y a là effectivement les hétéronymes. Pessoa a écrit en son nom et aussi en d'autres noms. On en a recensé 72. Les gens qui ont trouvé la malle dans lequel il rangeait tous ses textes, on fait un travail de recensement et il a voilà, on s'est aperçu qu'il avait, il s'était inventé 72 alias et donc mettre en scène. Il s'agissait pour moi de mettre en scène l'univers intérieur d'un écrivain, mais là c'était formidable parce que l'univers intérieur de Pessoa, il l'a complète, enfin son univers intérieur, il l'a absolument théâtralisé. Et donc, j'ai essayé de...
Et justement, en plus de ces hétéronymes et donc de ces troubles de la personnalité, il y a aussi les hallucinations, les vertiges qui font partie de sa vie. Et tu l'as représenté de différentes manières au cours de l'histoire dans la BD, sans en dire trop non plus. Mais il y a un élément qui interpelle, et d'ailleurs qui est sur la couverture, c'est le petit papillon rouge-orange. Oui. Qu'est-ce que ça signifie?
Ah, le papillon. Alors le papillon, on en trouve trace dans l'œuvre de Pessoa. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans le livre, mais qui d'une certaine manière, explique le choix du dessin de couverture. C'est une phrase où il explique que... je vais essayer de ne pas me planter en direct.
On t'en voudra pas.
Il disait mon destin est peut-être de toute éternité d'être comptable, et la littérature et la poésie ne sont peut-être qu'un papillon venant se poser sur mon front et qui me rend d'autant plus ridicule que sa beauté est plus éclatante. Voilà pourquoi le papillon. Et comme tu l'as très bien remarqué, je voulais aussi mettre le lecteur un peu, comment dire, dans un relatif inconfort. C'est-à-dire que la poésie, c'est quelque chose d'assez insaisissable. La frontière entre la réalité et la fiction que tu évoquais tout à l'heure, elle est assez impalpable, et donc les papillons m'ont servi à d'une certaine manière prendre le lecteur par la main et l'entraîner comme ça, de manière très très douce, vers et imperceptible vers cette espèce de zone un peu trouble qui était le quotidien de Pessoa. Pessoa, en fait, il était comptable, effectivement. Enfin, il n'était pas comptable. C'est Bernardo Soares qui était comptable. Bernardo Soares, c'était un de ses alias. Lui, il était, en fait, il faisait des traductions. Comme il avait grandi et qu'il était allé à l'école en Afrique du Sud, il maîtrisait parfaitement l'anglais, donc il était employé pour traduire des lettres commerciales. Et puis ensuite, il rentrait chez lui. Avant de rentrer, il passait par quelques cafés pour s'abreuver, prendre des forces. Et puis, toute la nuit, il travaillait. Et voilà, on a des témoignages de ça, puisque il a vécu longtemps avec sa mère quand elle est revenue d'Afrique du Sud, et puis sa sœur, Henriqueta. Et alors, tandis que la maisonnée dormait, lui, tapait à la machine, fumait beaucoup. Sa sœur racontait qu'elle l'entendait déambuler dans l'appartement, prendre des bains. Et le matin, très important, il était très impatient, il n'avait pas dormi de la nuit, les gens se levaient, et il ne rêvait que d'une chose, c'est de lire à tout le monde ce qu'il avait écrit. Comme l'enfant qui fait un dessin,
spectacles avec mes sœurs.
Qui est très impatient de montrer à maman. Et la relation, effectivement, entre Pessoa et sa mère est très, très importante et très déterminante, puisque elle-même écrivait. Et voilà, donc c'est ça que j'essaie de raconter. Là, je livre les choses un peu en vrac, mais
ça donne une idée générale.
Voilà, mais c'est en tout cas ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et en fait, j'ai fait ce livre de la même manière que j'avais fait sur un air de fado pour comprendre la dictature. J'ai fait l'intranquille Monsieur Pessoa pour comprendre Pessoa. Et j'espère avoir compris quelques petites choses. Je pense pas que j'en ai fait le tour. Et ce que j'espère surtout, c'est que les gens, après avoir lu la bande dessinée, auront envie de se tourner vers l'œuvre de Pessoa.
Oui, je pense qu'au-delà de toi comprendre, tu permets aussi aux lecteurs de comprendre Pessoa. Parce que quand nous, on l'étudie à l'école, on ne comprend pas du tout pareil qu'en lisant cette bande dessinée qui revient sur sa vie et ses tourments, etc.
Exactement. Et d'ailleurs, tu parlais d'incompréhension. Est-ce que tu es français, mais par alliance, tu as un contact avec le Portugal? Et est-ce que ça t'a posé dans tes recherches et même dans l'écriture la question de la traduction? Est-ce qu'elle a posé problème? Est-ce que, mais d'ailleurs, on pense à la traduction du livre en français, de l'intranquillité ou de l'inquiétude. Oui. Il y a toujours cette ambivalence. Et est-ce que toi, c'est des questions qui t'ont été posées lors de la rédaction et du dessin, illustration de cet
ouvrage? Est-ce que j'ai été gêné par la
barrière de la langue?
Non, il n'y a pas... D'abord, effectivement, les livres ont été traduits. J'ai été plus... gêné, enfin en tout cas quand j'ai fait sur un air de fado donc qui parle de la dictature, qui parle de la police politique, là je pour me renseigner sur ces faits historiques j'ai dû lire des livres en portugais et donc là il a fallu que je m'y mette quoi, mais en fait on y arrive quand on est motivé. Et
c'est un beau message à faire passer.
Voilà.
N'est-ce pas, Ricardo?
Oui, oui. La résolution arrive.
Et Ricardo ne lit pas beaucoup, c'est pour ça.
Ah. Comme résolution, je dois lire plus.
Déjà, ouais. Tu peux commencer par l'intranquille Monsieur Pessoa.
Exactement.
Mais d'ailleurs, tu vas à Paris. Est-ce que tu as vécu un temps à Lisbonne ou au Portugal? Parce que en lisant les BD, on se sent véritablement au Portugal. Est-ce que tu as adopté un style de narration ou une patte graphique particulière qui permet de mettre en scène cette impression même d'être dans la vie de Pessoa?
Alors, je suis allé sur place. J'ai pas vécu sur place. L'idéal, effectivement, aurait été que je m'installe à Lisbonne et que je fasse la bande dessinée sur place. Mais bon, c'est un luxe que je n'ai pas pu me permettre. Mais par contre, j'ai pris des photographies. Et alors, la question de savoir comment j'ai restitué Lisbonne, là, j'ai pas vraiment... je peux pas vraiment expliquer. J'ai un point de vue naturaliste, j'ai un dessin assez, assez réaliste, et je pense, enfin, j'ai l'idée que le milieu influence l'individu, et donc si je veux traduire le vécu des gens, j'ai intérêt, enfin c'est comme ça que je conçois les choses, j'ai intérêt à être le plus précis possible dans la description de leur environnement. Donc je me documente beaucoup. Et ensuite, bah, je fais ma petite cuisine en espérant, effectivement, ne pas trahir, enfin, en tout cas, trahir le moins possible l'environnement que je décris aux yeux de ceux qui le connaissent le mieux, c'est-à-dire les Lisboètes en l'occurrence.
Et en tout cas, j'ai personnellement bien reconnu la ville et ses ambiances. Mais d'ailleurs, comment a été reçu pour l'instant l'intranquillité, enfin l'intranquille Monsieur Pessoa?
Ben, il est très bien reçu, en particulier au Portugal, puisqu'il va être traduit.
Waouh, félicitations.
Ça va sortir au mois de mai, si j'ai bien compris. Ce sont les éditions Levoir qui s'en chargent, de la même manière qu'ils s'étaient chargés de traduire sur un air de fado, à Oussand ou Fado, en Portugal. Voilà, j'ai même eu d'ailleurs les honneurs de la RTP.
Waouh! C'est mérité.
Il y a les bureaux parisiens de la RTP, donc j'ai été contacté. On a fait un petit sujet sur l'intranquille de M. Pessoa. J'ai croisé aussi, mais alors ça c'est le hasard, José Rodrigo dos Santos,
ouais,
à la librairie, à la Griffe Noire. On a dédicacé ensemble, c'était assez marrant. Lui il parle très bien français, donc ça m'arrangeait bien. Ouais.
Très beau parcours.
Oui, effectivement, faire des livres sur le Portugal, curieusement, ça vous ouvre les portes de la communauté portugaise.
Ben, c'est pour ça que
ce qui ne me déplaît pas.
Ouais.
Et voilà, il est question que j'aille aussi au consulat portugais de Bordeaux pour parler de Pessoa, et ça me fait bien plaisir.
Ben, ça nous fait aussi extrêmement plaisir, et c'est pour ça qu'on est content aussi de te recevoir ici sur Themestadt du Spontan. Il est bientôt 15h, merci d'avoir répondu aux premières questions d'Antonin. D'ici 5 minutes, on continuera cette interview en parlant de Sur un air de fado, ton premier album publié en solo en 2021, et plus largement de ton travail de dessinateur et auteur. Mais avant cela, Nicolas, tu as choisi une musique, c'est A Felicidad du grand Antonio Carlos Jobim, et c'est tout de suite sur Radio Alpha.
A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei. De pirata ou jardineira.
Rádio Alfa. 15h02, vous êtes bien sur Radio Alpha pour l'émission Themestadt de Sponton. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec le dessinateur et scénariste Nicolas Barral. Antonin, je crois que tu as encore plein de questions pour lui.
Je crois que je pourrais ne jamais m'arrêter, mais bon, malheureusement, le temps
on
de l'émission...
On va rester ici jusqu'à la fin de la soirée.
Exactement, exactement. Mais donc, on a déjà parlé de ta dernière sortie, et maintenant, on va se pencher un peu d'abord sur ta carrière de dessinateur et scénariste de BD, avant de revenir sur un air de fado, enfin, sur un air de fado. D'où est venu, pour commencer, ton intérêt pour les arts plastiques?
Alors, en fait, je pense que j'ai très tôt eu envie de raconter des histoires, et par le dessin. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui dessinent, mais moi, j'ai pris ça très, très au sérieux et très tôt. C'est-à-dire que je me souviens, c'est un peu confus dans ma mémoire, mais je devais avoir 8-9 ans, j'avais fait un livre illustré. Je venais d'apprendre à lire et à écrire, et donc, dans un texte qui devait sans doute être bourré de fautes d'orthographe, j'avais raconté une petite histoire et puis j'avais illustré. Et en fait, ça m'a jamais quitté. J'ai fait des études d'art plastique, si on veut. C'est-à-dire que je me suis inscrit en fac d'art plastique à Sancier. Mais en espérant qu'il y apprendre à dessiner, mais en fait c'était pas du tout le cas. Donc je suis continué à me former en autodidacte et j'ai préparé le concours d'entrée aux Beaux-Arts d'Angoulême section bande dessinée. Ça, c'était en 1987. Et j'y suis pas resté très longtemps, parce que pareil, l'apprentissage que je souhaitais n'y était pas. Et donc j'ai décidé d'en partir. Mais j'ai quand même croisé à cette époque un certain nombre de gens qui ont constitué un premier réseau. Et j'ai une bande dessinée qui est sortie en 1996 avec un des anciens élèves d'Angoulême qui s'appelle Christophe Gibelin, qui s'appelait Les Ailes de Plomb. Et puis on suivit une série humoristique, Baker Street, qui racontait les aventures décalées de Sherlock Holmes. Puis chez Dargo, Philippe et Francis, qui était une parodie également des aventures de Blake et Mortimer. Et puis on m'a demandé de reprendre Nestor Burma, que Tardy avait créé. Et pendant tout ce temps, je rongeais mon frein parce que j'avais envie de raconter mes propres histoires. Et en 2015, je me suis dit qu'il était temps. Et donc j'ai pris le taureau par les cornes. Et comme j'avais effectivement été favorablement impressionné par le livre d'Antonio Tabucchi qui s'appelait « Pereira prétend », qui parlait de la dictature au Portugal, j'ai eu envie de réfléchir à cette question, et ça a donné sur un air de fado. La question étant, qu'est-ce que c'est que la dictature, comment doit-on se comporter quand on vit en dictature, est-ce qu'on est forcément un héros, est-ce qu'on va être capable de résister, ou est-ce que non, et si on ne résiste pas, est-ce qu'on est forcément un salaud. C'est ce que j'ai voulu, c'est cette matière-là que j'ai mise en scène sur Un air de fado.
C'est ça. Et justement, pour introduire le synopsis de Un air de fado, ça se situe aussi dans un contexte similaire à L'intranquille Monsieur Pessoa, donc c'est au Portugal sous la dictature, à Lisbonne. Mais cette fois-ci, on y suit le docteur Fernando Page, qui donc a sa clientèle aisée, mais qui a aussi ses entrées à Lapide. Et petit à petit, lui, il bascule, il commence à avoir des contacts dans la résistance et il prend action. Et comment est-ce qu'un personnage comme celui-là, qui est venu en tête, comment est-ce qu'on se dit qu'on va faire un personnage qui tourne vers la rébellion, dans un moment de la dictature, parce que c'est pas anodin. Est-ce que c'était une volonté
Alors l'angle, je l'ai trouvé. Enfin, je m'interroge beaucoup sur l'influence des origines sur le comportement des individus. C'est-à-dire que en quoi la famille, par exemple. L'éducation qu'on a reçue ont de l'influence sur la manière dont les gens se comportent. Et donc l'angle que j'ai choisi pour traiter de la dictature, c'était deux frères, en fait. L'un ayant par tradition familiale plutôt des accointances avec la droite et voire l'extrême droite, et qui donc est assez à l'aise sous Salazar et d'ailleurs occupe même un poste important au sein de la police politique, et l'autre qui n'est pas forcément aussi convaincu que son frère de bien fondé de la dictature, mais et qui d'ailleurs a été tenté dans sa jeunesse par la résistance. Et qui donc a une attitude plus ambivalente. Enfin, je mets en scène un personnage un peu indécis. Je ne crois pas d'ailleurs que le courage ou l'engagement soit quelque chose qui se décrète. Je mets en scène dans cette bande dessinée un personnage que les événements vont conduire à changer d'attitude. Et voilà. Et c'est une réflexion. C'est une réflexion. Que j'ai pu avoir parce que j'avais peut-être le bon âge pour raconter cette histoire. Une première mouture du scénario existait, que j'avais écrite, j'avais 35 ans. À 35 ans, pour moi, ça faisait pas un pli. Si j'avais été confronté à la dictature, j'aurais été un héros. 15 ans plus tard,
ayant vécu, me connaissant un peu mieux, j'étais déjà un peu plus, comment dire, prudent. Et donc voilà, donc il y a eu un long temps de maturation pour écrire cette histoire, qui était, je pense, nécessaire pour vraiment tout bien sous-peser, et puis surtout pour se documenter suffisamment. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, tous les livres, par exemple les archives de la PID, n'avaient pas été ouvertes au public, ni aux universitaires. Et donc le fait d'avoir attendu m'a donné accès aux ouvrages d'Irène Pimentel, qui a écrit effectivement sur la PID en particulier, et alors j'ai fait mon miel d'un certain nombre de choses que j'ai trouvées dans ces livres consolider mon histoire et parler de la dictature, mais pas de la dictature en général, de la dictature portugaise, de ses spécificités, comment torturer les gens par exemple. C'est quand même intéressant.
Oui.
Et donc effectivement,
il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Faut pas rigoler, hein.
Non, mais il y a déjà. Non, mais c'est-à-dire effectivement, le c'est une science, la torture. Enfin, c'est une science d'obtenir les aveux. Et donc spontanément, moi, je pensais que la meilleure méthode, c'était de taper sur les gens.
Pas du tout.
Et en fait, non.
Faut et d'ailleurs les. De sommeil.
Exactement. Et d'ailleurs la PID s'est posé cette question et ils sont allés faire des stages aux États-Unis, auprès de la CIA.
Oui, c'est vrai.
Et c'est là qu'ils ont découvert effectivement que la méthode la plus sûre, c'était la privation de sommeil. Donc je mets tout ça en scène, en essayant d'être le moins trash possible, mais en même temps, il s'agit de faire ressentir aux gens, alors évidemment, la douleur des prisonniers de la PID, mais également la douleur plus insidieuse des gens de la rue, des hommes et des femmes qui évoluent dans un univers corseté où on ne peut pas où parler est dangereux. Hein, il y avait des informateurs dans les rues. Nombre de piliers de comptoir se sont retrouvés en prison parce qu'après avoir bu un ou deux verres, bon bah ils se lâchaient un peu sur ils ouvraient leur cœur et puis il y avait un agent qui signalait leur méfait et ils se retrouvaient en tôle et puis histoire de qu'on leur fasse passer l'envie de dire du mal de Salazar. Donc toutes ces choses là toutes ces petites contrariétés quotidiennes et limitations quotidiennes, ça me semblait important de les montrer pour que les lecteurs ressentent vraiment dans leur chair ce que c'est que la dictature. Les livres d'histoire sont utiles, évidemment, mais je pense que la fiction a aussi un rôle à jouer parce qu'elle touche à l'intime. Et voilà, l'idée, évidemment, étant que pour moi, de ne jamais avoir à répondre à la question de savoir si je suis un héros ou pas. Donc, effectivement, si on pouvait éviter, moi ça m'arrangerait, hein, si on pouvait éviter de verser dans la dictature, j'aimerais mieux.
On te posera pas la question en tout cas.
C'est voilà. Ça. Mais en plus, c'est quelque chose dans la BD, comme c'est assez récent, la dictature portugaise, dans lequel nous, en tant que lecteurs, on peut reconnaître nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, voire même nos parents. Et c'est pour des jeunes lecteurs comme nous, c'est super important d'avoir accès et d'avoir cette représentation dans la BD, encore plus en France pour les luso-descendants. Donc merci. Mais justement, tu parlais du scénario qui avait pris du temps à maturer. Et cette BD-là, sur un air de fado, en 2021, c'est la première fois que tu fais à la fois le scénario et l'illustration, c'est bien ça?
Oui.
Et c'était vraiment un objectif au final de faire ces BD de A à Z. Pour toi, c'est l'accomplissement de...
Oui, parce que quand on travaille avec des scénaristes, même quand ils sont très bons et même quand on s'entend bien avec eux, ils vous entraînent dans des zones où on n'est pas forcément le plus confortable. Et donc le dessin s'en ressent. Enfin moi j'avais le sentiment. Alors parfois j'étais frustré parce que le scénario n'allait pas forcément exactement dans la direction où je le souhaitais. Et puis donc là c'est le scénariste en moi qui bouillait d'impatience. Et puis le dessinateur.
rêvait de dessiner ce que les scénarios qu'on lui proposait ne le lui permettaient pas. Et donc, cette somme de frustration, à un moment donné, il fallait que ça cesse. Et donc, je me suis dit qu'il était temps que je prenne le taureau par les cornes. Et je pense que je l'ai fait au bon moment, en tout cas pour moi. Et j'avais suffisamment de technique, je pense. Parce que travailler avec des scénaristes, c'est intéressant, parce qu'on voit quand même un peu comment se fabriquent les histoires. Et on prend des notes. Et puis, mais le plus important pour moi, c'est le vécu. C'est-à-dire, il faut quand même mieux avoir des choses à dire quand on veut raconter des histoires. Et des choses, si possible, un peu personnelles. Et c'est pas... Je me souviens, quand j'étais étudiant à Angoulême, j'avais un prof qui m'avait... Alors, je m'étais tourné vers lui en lui disant « J'arrive pas à écrire des histoires. Tu n'aurais pas un bouquin à me conseiller? Il n'y a pas des livres sur le scénario ?» Il dit « Si, bien sûr, il y a des livres qui existent. Mais tu as quel âge ?» Alors, j'avais dit « Bon, j'ai 22. »« Ah, tu as 22 ans? Ok. » Mais tu veux raconter des histoires. Mais est-ce que tu crois pas que tu pourrais commencer par vivre un peu ?
Une très belle phrase.
Pas mal.
Et je pense qu'il avait raison. J'ai mis du temps à percuter parce que j'étais même un peu vexé au départ de cette.
J'aurais été vexé aussi.
Mais en même temps, je crois qu'il avait un peu raison. Alors il y a des auteurs précoces, hein, des gens qui n'ont pas besoin de vivre très longtemps pour avoir des choses à raconter et surtout un regard pertinent sur le monde et sur les gens, mais je pense qu'il m'avait bien cerné, il avait vu que j'étais un peu mal dégrossi, donc voilà, le temps a passé, puis à un moment donné, j'étais mûr.
Et à ce moment-là, a été le moment de prendre le contact avec une maison d'édition.
J'étais déjà dans le circuit, donc c'était assez facile. Quand on habitue les gens à être uniquement dessinateurs, je dis les gens, c'est-à-dire à la fois les scénaristes et les éditeurs. Bon, effectivement, il y a un petit moment de flottement. C'est-à-dire, tu es sûr que tu veux écrire des histoires? Tu te débrouilles bien au dessin? Tu veux vraiment te risquer? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on produit quand même on se contente pas de dire j'ai envie d'écrire, enfin, de raconter une histoire. On produit un document, un synopsis. Et il semblerait que le document que j'ai fourni, qui était assez d'ailleurs étoffé, est convaincu. Et donc après, il y avait plus qu'à s'y mettre. Et ce que j'ai constaté, qui est assez marrant, c'est que effectivement, quand j'écris mes histoires, je ne dessine pas de la même manière que quand je travaille avec d'autres scénaristes. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis vraiment en terrain connu quand je raconte mes propres histoires, et donc ça donne un dessin probablement plus détendu, plus fluide, enfin.
Et tout ce processus d'affinement du scénario, de la proposition, puis du dessin, de l'illustration, ça a pris combien de temps pour faire publier cette BD?
Alors laquelle? Fado ou...
Sur un air de Fado.
Sur un air de Fado, je dirais qu'il y a eu 15 ans de maturation et ensuite 3 ans de réalisation.
C'est énorme.
Ah oui.
Mais la maturation, ça veut dire effectivement, on y pense à ces moments perdus. On achète un bouquin, on note des trucs, on garde, on jette. Le point de départ, on sait qu'on tient quelque chose au moment où effectivement on comprend pourquoi on a envie de faire un livre sur tel ou tel sujet. Au départ, c'est parfois un peu confus. Pessoa, par exemple, j'ai été fasciné quand j'ai lu le livre de Tabouki, mais ce n'était pas suffisant. Puis, alors, j'aurais pu raconter une biographie en déroulant les faits de manière chronologique, mais ça n'aurait pas, enfin, à mes yeux, ça n'aurait pas présenté beaucoup d'intérêt. Il fallait que je trouve un angle un peu personnel. Et pour Fado, c'était un peu la même chose. Et l'angle, je l'ai dit tout à l'heure, c'était qu'en fait, pourquoi j'étais intéressé par la dictature? Parce que je me posais la question de savoir comment je me débrouillerais au milieu de tout ça. Est-ce que j'étais si sûr que ça d'être un héros? Est-ce que j'aurais le courage? Et donc là, j'avais un angle et puis un angle qui allait être personnel puisque j'allais parler de moi.
Et justement après ce travail sur Anna de Fado et l'intranquille Monsieur Pessoa, tu travailles sur une suite d'Anna de Fado, c'est ça?
Oui, j'ai commencé à prendre des notes. J'ai envie de parler de l'exil. La question pourrait se poser de savoir pourquoi je serais particulièrement qualifié pour parler d'exil. Alors, certes, je peux témoigner du fait que mes beaux-parents se sont exilés. Ma femme est née en France de parents portugais. Mais il y a une autre forme d'exil qui est l'exode rural. Moi, par exemple, ma famille c'était une famille de paysans. Ils vivaient en Savoie, puis ils ont dû, parce qu'il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde, revenir à Paris. Et en fait, c'est un choc culturel aussi. Et ça n'a pas été facile. Parce que voilà, les Savoyards n'étaient pas particulièrement bienvenus à Paris. Et donc y a cette thématique qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'arrachement, être arraché à une terre où on est né, où tout était simple, où d'une certaine manière le chemin était tracé. Et puis un événement économique en l'occurrence, pour le Portugal c'est d'ailleurs aussi beaucoup l'économie qui a joué dans le... Il y avait les prisonniers politiques, puis les gens fuyaient le pays aussi parce qu'il n'y avait pas de travail. Et là il faut tout réinventer. Et donc ça m'intéresse de voir finalement combien de temps ça prend, combien de générations ça prend avant que la greffe prenne ou ne prenne pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais vraiment réussi à se situer, et ça m'intéresse, voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus.
Et c'est un sujet qui nous touche tout particulièrement, nous, donc on a hâte d'en savoir plus, en tant que, évidemment, le descendant portugais en France et en quête de notre identité. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions et c'était une interview magnifique.
Exactement, on a très très hâte de la suite de ce bel album. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pour rappel, l'intranquille Monsieur Pessoa de chez Dargo est disponible partout. C'est impossible de ne pas l'aimer, donc foncez vous le procurer. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h. D'ici 5 minutes, ce sera le moment de la curiosité de la semaine avec Laura. Mais d'abord, tu as choisi une autre musique, Wildzunge de Carlos Porridge. Pourquoi cette musique te marque particulièrement?
Eh ben, en fait, c'est une musique qui m'a servi de bande-son pendant que je faisais Sur un air de fado.
Mais ça m'étonne pas parce que tu cites Carlos Porridge dedans.
Oui. Mais je sais pas, ce son cristal. Alors, moi, je suis guitariste. Je pratique pas la guitare portugaise, mais je suis guitariste, donc j'ai une forme de sensibilité à cet instrument. Mais cette sonorité qui est typiquement portugaise me fout les frissons en fait.
Eh bien écoute, on est ravis que tu adores et tu vas pouvoir en profiter puisqu'on va se la passer tout de suite. Donc tout de suite, Wildzunge de Carlos Porridge. Stade de Spontan sur Radio Alpha. Aujourd'hui, nous avons deux curiosités de la semaine pour vous, n'est-ce pas Laura?
Oui, exactement. La première, c'est que dimanche dernier, la 82e cérémonie des Golden Globes a eu lieu aux États-Unis et l'actrice brésilienne Fernanda Torres a été récompensée du prix de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle dans Ain't the Story. Qui vous en avez entendu parler?
Alors, pour l'anecdote, je suis allée au cinéma hier et il faisait partie des pubs parce qu'il sort en France le 15 janvier, donc ce mercredi. Apparemment, il est incroyable, donc vraiment foncez dans les salles.
Exactement, c'est un film réalisé par Walter Sarge et elle incarne Eunice Pive, avocate et épouse du député fédéral Ruben Pive, disparu sous la dictature militaire en 1971, donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Et elle devient donc Fernanda Torres, la première brésilienne à recevoir un Golden Globe. D'ailleurs, ce prix survient 25 ans après que sa mère, Fernanda Montenegro, ait été nominée dans la même catégorie pour Central do Brasil. Mais elle, par contre, n'a pas remporté le trophée, du coup. Le film a reçu de super critiques jusqu'ici. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Et puis, comme tu l'as dit, Julie, il sortira en salle le 15 janvier en France. Pour la seconde curiosité de la semaine, on retourne au Portugal. Le 8 janvier 2025, les cendres de l'écrivain portugais José Maria Assis de Queiroz ont été transférées au Panthéon National à Lisbonne. Donc cette cérémonie met fin à une longue bataille judiciaire concernant le lieu de sa sépulture. Assis de Queiroz a écrit des classiques tels que Ujmai et O Crime do Padre Amaro. Donc sa présence au Panthéon souligne l'importance de son œuvre dans le patrimoine culturel portugais. Et si ça vous intéresse, on a un réel qui a été publié par la présidente de Cap Magellan, par Lourdes, très intéressant sur ce sujet.
Sur Instagram de Cap Magellan, je vous invite à aller voir. Toi, Nicolas, tu connais Assis de Queiroz?
Non.
C'est un monument aussi. Tu pourrais faire une BD sur lui comme sur Pessoa. C'est un peu le... Dites-moi si je dis une bêtise, mais c'est un peu le Balzac portugais finalement.
Ouais, carrément, vraiment dans les thèmes, dans la lourdeur, pas la lourdeur, mais l'intensité de la description.
Antonin.
Malheureusement, j'ai un souvenir de Assis de Queiroz au lycée qui était dur à lire. Voilà, ouais. Je crois que c'était Amor de Perdição.
Non, ça c'est Camille de
Je confonds tous les deux, malheureusement. ça prouve que c'est vraiment pas mes auteurs.
Mais les Mayas, c'est vraiment un monument. Je te le conseille.
Ben, merci.
Et ça te fera peut-être un nouveau sujet de bande dessinée.
Mais qui sait.
En tout cas, ça nous ferait très plaisir de voir ça. De toute façon, toutes tes bandes dessinées nous feront très plaisir. Nicolas, on continuera bien sûr à suivre ton travail. En tout cas, merci Laura pour ces bonnes nouvelles du monde de la lusophonie brésilienne portugaise. Tout de suite, je vous propose qu'on s'écoute une nouveauté encore d'un artiste qu'on connaît bien, qui nous suit et qu'on suit plus ou moins assidûment. C'est Michael Ferreira et ce titre, c'est Pour que eu senti, moi sans toi. temos estado 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para musicar. Ana Rita, quem apresentas hoje?
Hoje trago a HMB, ou desmontando a sigla, é Heber Marques Band. É verdade, este é o significado do nome HMB. Esta banda musical foi criada pelo Heber Marques. Foi ele que reuniu os elementos iniciais deste grupo, criado em 2007, que se trata de amigos que tocavam juntos noutros projetos musicais na altura. A banda é composta então por Heber Marques, o vocalista principal, e os músicos que o acompanham são o Fred Martinho, o Daniel Lima, Joel Silva, Joel Xavier e também a irmã do Heber, a Hulda, que faz parte das vozes deste grupo. É uma voz feminina cheia de soul, e como back vocal masculina também o Enoch, que tem também o seu próprio percurso solo, que vale muito a pena acompanhar. E que, como não podia deixar de ser, se caracteriza pelo género soul R&B, à semelhança dos HMB, cujas origens vêm do gospel, do Heber Marques. Ora, depois deste breve briefing sobre quem são os HMB, esta nossa banda portuguesa, já agora posso partilhar também o porquê de terem sido os eleitos da rubrica de hoje. E foi porque tive o enorme prazer de rever um show deles agora recentemente na Figueira da Foz, a minha querida cidade, um beijinho para lá, onde pude matar saudades da energia única dos HMB nas celebrações do final do ano. Eles são realmente incríveis. Uma pessoa pode estar num dia não, que mal ouve a canção Não Me Leves a Mal, onde eles cantam chega, chega, sai, sai. É só boa vibe mesmo, e é impossível ficar estático ou num mundo negativo a ouvir isto, e muito menos com frio, porque a vontade de dançar é inegável. Aliás, eu estive à conversa com o Heber há uns anos, lá na Figueira da Foz, também, onde entendi que a boa energia deles é pura realmente e salta do palco para a vida real, literalmente. Bom, a primeira canção deles que escolhi foi Eu Não Sei Se Algum Dia Eu Vou Mudar.
Adoro.
Qual é que é?
O Amor é
Assim. O Amor é Assim. Vamos ouvir então.
Quero o teu pai, e que eu seja o teu pai. significanza io. O amore sì, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti.
Dispor esta canção. E todas as canções dos HMB são em português, portanto não há desculpas para a mensagem deles não passar. O próximo tema é exemplo disso mesmo, é um clássico que se chama Peito. E esta balada tem uma mensagem muito explícita sobre amor e a vontade de o entregar e confiar. É uma mensagem simples, direta e muito boa de ouvir. Já agora, se forem ao Instagram dos HMB, vai poder ver um vídeo com uma compilação dos últimos concertos deles, onde o Eber lançou o desafio ao público. Em cada concerto, de vir alguém ao palco cantar esta canção com ele. Imagina a sorte de poder partilhar este momento no palco com eles. Eu acho que são estes momentos, estes pequenos gestos que criam memórias ao público e que aproximam os artistas dos seus fãs. Confesso que só não fui ao palco na última vez que os vi na Figueira da Foz porque estava muito frio e estava muito constipada.
Eu não ia no palco, digo-te já.
Ias?
Não, eu não, ia.
Eu conhecia as letras todas de cor.
Sim. Eu conheço tudo de cor, mas acho que é melhor para o público eu não ir. Estás a ver?
Tá bem. Sim, foi a pensar no bem do público, eu acho que sim, fiz bem. Fiquei então com o Peito dos HMB.
A declarar se te esforças para não acreditar. Não trago nada, não, em segredo. E se me falta a convicção, é só por medo. Podes duvidar, mas tens de te entregar. Porque eu não volto a dar razão ao meu erro. Podes confiar, também vou me entregar. E se quiseres confirmação, tem atenção. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu erro. Pode
escuta o meu peito.
Terminar, quero dizer-lhe, caro ouvinte, que os HMB lançaram em março de 2024 o álbum Neste Deserto Nasce Sem Flores. É o álbum que sucede Melodramático, que saiu em 2020, em plena pandemia, e neste novo trabalho podem ouvir temas com participações especiais de vários artistas muito conhecidos. Entre eles vou destacar a canção Lembra-te de Mim, que é com o Rui Veloso, e A Chapa Está Quente, com o Pedro Brunhosa. Já agora vale a pena ver os videoclipes, especialmente este último, que está bastante criativo e estético. E como na rádio a nossa partilha é em áudio, deixo já escutar este tema dos HMB com o Pedro Brunhosa, A Chapa Está Quente. Espero que goste, que fique atento às redes sociais dos HMB para não perder os concertos deles, que são maravilhosos, cheios de boa energia. Obrigada e espero que tenham gostado.
Obrigada, Ana Rita, gostamos imenso e adoramos os HMB. Oh. E vamos ouvir então A Chapa Está Quente de HMB com o grande Pedro Brunhosa e voltamos daqui a 5 minutos para os bom pronto.
Não há problema se és contra o sistema e não aguentas ficar quieto. Não há stress, yes, yes, yes. Não há stress.
É uma chatice ficar nessa mesmice, nessa postura certa como uma miss. Só dá stress, yes, yes, yes. Só dá stress, yes, yes.
Se nos olham de lado,
stress.
chapa tá quente, a chapa tá quente.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Team Stade de Sponton touche à sa fin. J'en profite pour faire un petit bisou à Alexandra Viel qui nous écoute et qui adore Chapeta Kint de HMB. Avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors tout d'abord, tu nous en as parlé, Laura, le concert de Shona French Fadista qui a lieu ce jeudi au Kibelé dans le 10e arrondissement. La chanteuse brésilienne Don Anene sera à Corbeil-Essonnes le 23 janvier et au Théâtre du Châtelet le 28 janvier, donc prenez vos places. Les deux chorégraphes Jonas et Lander présentent leur spectacle hybride mêlant danse du fado et leur musique le 21 janvier à Saint-Étienne-du-Rouvray, les 23 et 24 janvier à Reims, le 28 janvier à Dieppe et le 30 janvier à Trappe dans les Yvelines. L'artiste portugaise Emma Gaspar réalise sa première exposition personnelle en France, Please Sleep, au Goswell Road dans le 10e arrondissement de Paris jusqu'au 25 janvier. Le Fado sera de retour, salle Vasco de Gama, vendredi 31 janvier à partir de 19h30. C'est un événement organisé par Radio Alpha et présenté par Odette Fernandes. Vous y retrouverez les fadistes Vanessa Miranda, Céline Pereira, Claudia Costa, Mathieu Domingues, Hugo Vitorino, Manuel Miranda à la guitare portugaise et à la voix, Miguel Ramsch à la guitare et à la voix, et Tony Coureil à la basse. Réservez vos places au 01 45 10 98 70 ou sur le site de radioalpha.net sur la page boutique. Jusqu'au 2 février, vous pouvez aller voir l'exposition de l'artiste Tercila do Amaral, qui est une figure centrale du modernisme brésilien, c'est au Musée du Luxembourg de Paris. Et jusqu'au 9 février, passez à la Maison du Portugal André de Gouveia à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour voir l'exposition Marias de Abril de Melanie Alves. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas évidemment de suivre Team Stade de Sponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Nicolas d'avoir été avec nous et de nous avoir transmis ce beau témoignage de Luso passionné.
J'ai fait ce que j'ai pu.
C'était vraiment parfait. Merci encore et j'invite tout le monde à se procurer Sur un air de fado et L'intranquille Monsieur Pessoa de chez Dargo, disponible partout. Clairement. On se retrouve, nous, la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Je vous propose de cesser avec une musique qui passe partout sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. C'est Messi de Lola Young. Bonne semaine à tous.
Ciao, ciao.
À
la prochaine.
Salut. Salut.
Station when it was like -4 degrees, and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a champ.